Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghettis.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette derrière le micro pour cette émission de C'est bon pour la santé sur Canal M. Produit naturel que l'on connaît très bien, souvent utilisé lorsque l'on a un rhume, un mal de gorge, le miel est considéré comme un aliment qui est bon pour la santé. Voilà pourquoi je m'y intéresse. Mais quelles sont ses véritables vertus? J'en parlerai en deuxième partie d'émission avec la journaliste et auteure Catherine Crépeau. D'abord, un article de Marie-Claude Malbeuf, publié dans la presse le 10 février dernier, révélait des statistiques du ministère de la Santé qui mentionnaient que chez l'ensemble des consommateurs de cannabis, l'hospitalisation pour troubles mentaux était de plus en plus fréquente et d'autre part, des personnes qui vivent avec une maladie mentale ont tendance parfois à s'automédicamenter, que ce soit par de l'alcool ou avec de la drogue, afin de se sentir mieux, de contrôler les effets secondaires de leur maladie mentale. Quel est le lien entre santé mentale et toxicomanie? Docteur Didier Jutras-Soie, de psychiatre à l'unité de psychiatrie et de toxicomanie, oui, du CHUM, et professeur au département de psychiatrie de l'Université de Montréal, nous en parle. Docteur Jutras-Soie, bonjour.
Bonjour.
Jusqu'à récemment, j'ai l'impression qu'on avait tendance à traiter maladie mentale et toxicomanie de façon différente, c'est-à-dire un problème isolé de chaque côté que l'on traitait un à la fois. De plus en plus, on tente de suivre les deux à la fois. Et d'ailleurs, l'unité de psychiatrie des toxicomanies du CHUM a été créée à cet effet-là. C'est parce qu'il y avait un véritable besoin.
Exactement, en fait. Puis ça, c'est une situation qui était extrêmement dommageable pour les patients. On sait qu'il y a jusqu'à 5, 10, 15, en fait, plus 5, 10, 10 ans au Québec, en fait, là, les deux problématiques étaient, comme vous le disiez, très, très souvent traité en silo. Donc, essentiellement, les patients qui avaient un problème de santé mentale et qui avaient aussi une problématique de toxicomanie avaient beaucoup de mal à obtenir des services au même endroit par la même équipe. Par exemple, quelqu'un qui avait les deux problématiques pouvait essayer de se rendre dans des services où on pouvait lui offrir des traitements pour la toxicomanie. Et lorsqu'il parlait de ses problèmes de santé mentale, on allait souvent l'orienter vers d'autres services pour ses problèmes de santé mentale, ce qui fait en sorte que ces patients-là souvent se retrouvaient entre deux chaises et n'avaient pas accès au traitement qui était approprié.
Parce que on ne sait pas quelle problématique est venue avant l'autre, j'imagine bien souvent quand le patient est devant nous.
Bien, en fait, je veux dire, la réponse à ça, c'est de un, effectivement, le lien entre santé mentale et toxicomanie est extrêmement complexe et n'est pas linéaire. C'est-à-dire que il faut prétendre que dans tous les cas, la toxicomanie va mener à des problèmes de santé mentale ou l'inverse. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs trajectoires qui peuvent survenir. C'est-à-dire que, par exemple, la substance peut précipiter ou entraîner des problèmes de santé mentale. Mm-hmm. Le contraire est tout aussi vrai. Des gens qui vont, par exemple, avoir des problèmes de santé mentale qui ne sont pas traités, qui vont se compliquer, puis les gens vont se mettre à consommer. Et donc, je dirais que pour chaque personne, la trajectoire est différente et le lien entre les deux est assez souvent complexe. Mais je dirais, au-delà de cette complexité-là, je pense que le plus important, c'est de pouvoir intervenir sur les deux problématiques rapidement.
Mm-hmm. Et ça, j'imagine que ça change le traitement des patients. Ça fait combien de temps, Dr Jutras-Soie, que l'unité de psychiatrie des toxicomanies du CHUM a été créée?
Ça fait un peu plus de 4 ans, pratiquement 5 ans, en fait, que le programme a été développé puis que la programmation aussi s'est développée. Puis je dirais maintenant, le programme fonctionne bien. On a une unité interne, un programme externe et puis je dirais une avalanche de demandes de consultation, ouais. Évidemment, parce que c'est je dirais quasiment plus que la règle que l'exception là, des gens qui ont les deux problématiques.
Ouais. Est-ce qu'il y a des drogues qui sont plus sujettes à entraîner certains soucis de santé chez ces patients-là?
C'est une très bonne question, mais en même temps, probablement posée de façon trop générale pour pouvoir y répondre de façon appropriée. C'est-à-dire que chaque substance a des caractéristiques particulières qui font qu'elles peuvent induire certains troubles de santé mentale, parfois plusieurs, mais je dirais que c'est probablement ce serait un peu simpliste de penser qu'une substance en particulier est vraiment plus dramatique. Puis je voudrais, par exemple, si on parle de psychose, si on parle de dépression, évidemment, certaines substances vont être plus dommageables que d'autres.
Dans mon introduction, je parlais de cet article de la journaliste Marie-Claude Malbeuf dans la presse 10 février dernier qui parlait des consommateurs de cannabis là, qui sont de plus en plus, en tout cas, c'est ce qu'elle mentionnait dans cet article, de plus en plus sujets à des psychoses, à être hospitalisés suite à la consommation de marijuana.
Oui, puis ben en fait, je pense qu'il faut être prudent quand on voit des données comme ça. Ces données qui sont extrêmement intéressantes, puis je pense qu'ils peuvent nourrir nos réflexions sur comment mieux adresser là, ces problèmes de consommation et de santé mentale, mais je pense quand même qu'il faut être prudent de ne pas sauter trop rapidement certaines conclusions. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer cette augmentation là, du nombre d'hospitalisations en lien avec la consommation de cannabis. Ça pourrait être, ben, par exemple, des changements dans la consommation. On sait que le cannabis, il semble y avoir une légère tendance à la baisse de façon générale, mais est-ce que c'est possible, par exemple, qu'il y ait plus de consommateurs qui consomment du cannabis de façon plus intense ou de façon inappropriée? Est-ce que, vous savez, il y a d'autres phénomènes? On sait que, par exemple, quand même, la substance semble changer. Progressivement, les taux de THC, notamment, augmentent de façon progressive au fil des années, mais la substance, le cannabis qu'on trouve dans l'air aujourd'hui n'est pas le même qu'on retrouvait il y a 30 ans. Puis un autre phénomène qui est à prendre en considération, c'est qu'on prend en charge ces personnes-là différemment. Si quelqu'un a un problème de cannabis, a des problèmes de santé mentale, puis qu'on l'hospitalise parce qu'il en a de besoin, c'est bien évidemment, ça a des coûts pour la société, mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose parce qu'on préfère avoir des personnes comme ça qui sont en traitement et auxquels qui ont des besoins auxquels on répond, que des gens comme ça qui n'ont pas accès, qui sont tout seuls chez eux puis qui souffrent de leurs problématiques.
J'ai l'impression aussi, et ça c'est vraiment personnel comme point de vue, que la marijuana c'est souvent considéré comme une drogue banale. Donc notre façon de la consommer peut être différente et d'aller chercher les traitements aussi, peut-être qu'on est plus réticent.
Oui, ben vous avez un bon point, hein, parce que vous savez, c'est probablement il y a 15-20 ans qu'on a commencé à vraiment s'intéresser de façon plus attentive dans le milieu scientifique aux effets délétères du cannabis, mais pendant un bon bout de temps, on sait que le cannabis a traîné cette réputation de ne pas être une substance qui générait des dépendances, qu'il y avait peu de problèmes associés à cette substance-là. Évidemment, on s'aperçoit là, dans les 15-20 dernières années que, effectivement, vous savez, pour la majorité des gens, faut pas se le cacher, la majorité des gens qui consomment du cannabis n'auront pas des problèmes de santé significatifs à cause de cette consommation de cannabis-là. Mais par contre, on sait qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils vont consommer du cannabis, qui peuvent avoir des problèmes de santé qui sont majeurs, notamment sur le plan de la santé mentale.
Est-ce que, justement, Dr Jutra Aswad, il y a des gens qui sont plus fragiles à développer des maladies mentales suite à la consommation de drogue?
Oui, bien, en fait, toute cette question-là est probablement beaucoup plus prometteuse en termes de mieux comprendre le lien entre toxicomanie, santé mentale et cannabis, santé mentale. Je pense que l'idée, c'est pas de dire est-ce qu'une substance est bonne ou est mauvaise, c'est davantage de savoir pour qui cette substance-là peut être, la consommation d'une substance peut être plus risquée. Je dirais que parmi les indices qu'on a jusqu'à maintenant, ce qui semble être de plus en plus clair, c'est que les gens qui ont une vulnérabilité à la maladie mentale, notamment sur le plan génétique, qui ont un bagage biologique qui font en sorte qu'ils sont plus à risque de développer des maladies mentales, ces personnes-là semble plus vulnérable aux effets délétères du cannabis. L'autre population qu'on sait qui semble être probablement plus sensible aux effets potentiellement néfastes du cannabis, c'est les personnes qui sont jeunes. Dans la plupart des études là, qui ont été menées pour en fait analyser ou étudier l'association entre cannabis et problèmes au niveau cognitif notamment ou même de la psychose, un des facteurs qui permet de prédire si cette exposition-là au cannabis va être délétère, c'est l'âge à laquelle l'exposition au cannabis va survenir. Et on sait par exemple que des personnes qui vont consommer du cannabis ou qui vont commencer leur consommation avant l'âge de 14-15 ans sont probablement plus à risque d'avoir des effets délétères au niveau de leur santé mentale là, suite à la consommation de cannabis.
Donc la consommation précoce, j'imagine, Dr Jutra Aswad, vous êtes assez d'accord avec les campagnes de sensibilisation justement la consommation de cannabis chez les adolescents et tous les impacts que ça a sur le développement de leur cerveau?
Oui, tout à fait, exactement. Je pense que s'il y a un apport de la science que la science peut avoir justement dans le développement de stratégies de prévention et de traitement, c'est une de celles-là. Là. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des populations à risque, les gens qui consomment précocement sont plus à risque et il faut, je pense, mettre en place des stratégies de prévention pour faire en sorte que, si possible, les gens vont attendre, ou en tout cas, ne pas s'exposer précocement à cette substance-là.
Je reviens encore à cet article publié par la journaliste Marie-Claude Malbeuf qui parlait, et c'est de là, moi, j'ai eu envie de vous parler parce que je trouvais intéressant d'entendre parler de la psychose toxique, qui n'est pas nécessairement quelque chose dont on parle souvent dans la population générale, là, chez le grand public. Qu'est-ce que c'est la psychose toxique?
En fait, la psychose toxique, c'est un terme qui est un peu inexact. Là, ce qu'on utilise, je dirais, le pendant de ça, ce qu'on utilise dans des termes plus psychiatriques ou plus cliniques, c'est les troubles psychotiques induits par des substances, en fait, qui est communément appelé la psychose toxique. On peut utiliser ces termes-là aussi. Et essentiellement, c'est tout simplement l'apparition de symptômes psychotiques qui surviennent dans le contexte d'une consommation de substances. Et par exemple, dans le cas du cannabis, on sait que le cannabis, lorsque quelqu'un va s'exposer au cannabis, certaines personnes vont développer des symptômes psychotiques. Et ce que c'est des symptômes psychotiques, c'est en général, notamment une altération des perceptions, un trouble des perceptions. Le plus classique, là, c'est par exemple des gens qui vont avoir des hallucinations, qui vont, par exemple, entendre des bruits ou des voix qui sont pas réelles. Ça peut être des hallucinations visuelles, donc voir des choses, en fait, qui n'existent pas. Et des délires. Donc, par exemple, des idées qui ne correspondent pas à la réalité. Des gens, par exemple, classiquement, là, qui sont intoxiqués, qui vont commencer à penser, par exemple, qu'ils sont menacés, qu'ils vont se faire kidnapper ou que la police va les arrêter sans aucune raison. Mmh. Et on sait que certaines substances ont la capacité d'induire des symptômes psychotiques de façon très transitoire dans un état d'intoxication, mais lorsque ces symptômes-là vont perdurer un peu dans le temps, au-delà de la période d'intoxication, on va parler à ce moment-là d'une psychose toxique, donc d'une psychose, de symptômes psychotiques qui sont causés ou sont induits par la consommation.
Et c'est pas juste le cannabis qui crée ça, ça peut être toutes les drogues.
La plupart des drogues peuvent induire des symptômes psychotiques, que ce soit l'alcool, les stimulants, la cocaïne, par exemple, peuvent induire des symptômes psychotiques et pas seulement, certainement pas seulement le cannabis.
Et pas seulement nécessairement à la première consommation. Ça peut faire 10-15 fois qu'on fume un joint, par exemple, et là, ça arrive, l'intoxication, la psychose toxique.
Oui, tout à fait. On voit l'apparition de symptômes psychotiques secondaires au cannabis, parfois chez des gens dont c'est la première consommation, mais aussi chez des gens, des consommateurs plus expérimentés qui, par exemple, vont augmenter leur consommation, vont consommer un type de cannabis qui n'est pas le même qu'ils consommaient auparavant.
Docteur Jutras Aswad, on fait quoi si on est en contact avec quelqu'un qui réagit mal à la consommation de drogue?
Bien, évidemment, ça dépend de l'intensité de la réaction, mais je dirais que évidemment, si c'est des symptômes qui sont très légers, transitoires, un léger inconfort, en général, ces effets-là vont se résorber à l'intérieur de quelques heures, mais dès qu'on voit des symptômes qui sont plus inquiétants, des troubles de la perception, des effets, par exemple, qui vont durer quelques jours, quelques semaines, à ce moment-là, il faut absolument consulter. Ça peut être dans les services d'urgence si vraiment les symptômes sont très, très intenses ou la personne se met en danger, ou encore, ça peut être consulté soit les services de médecins, d'un psychologue ou d'un professionnel de la santé.
Et lorsque le patient, la personne, là, d'abord, se retrouve chez vous à l'unité de psychiatrie des toxicomanies du CHUM, j'imagine que ça dépend bien sûr des personnes, des cas, mais comment vous l'approchez? Est-ce que vous lui parlez en premier lieu de toxicomanie ou de santé mentale?
Le premier pas avec ces personnes-là, c'est de créer un lien. Au-delà, avant même de parler de toxicomanie, de problèmes de santé mentale, c'est de créer un lien avec ces personnes-là. Quand on n'a pas de... Surtout pour des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des problèmes de toxicomanie, qui sont souvent habitués de ne pas nécessairement bien se faire accueillir, malheureusement, dans notre système de santé. Ouais. La première des choses, c'est d'établir un lien de confiance, puis que la personne soit confortable de pouvoir nous parler, en fait, de sa consommation, pouvoir nous parler de ses problèmes de santé mentale. Et je dirais, la deuxième étape, lorsqu'on arrive à avoir un certain lien avec la personne, c'est de mieux la comprendre, mieux savoir ce qu'elle vit. C'est quoi sa consommation? Qu'est-ce qu'elle consomme? C'est quoi les symptômes qu'elle va rapporter? C'est quoi le lien entre la consommation, les problèmes de santé mentale? Avant même, et ça, c'est extrêmement important, parce que sans ces informations-là, on peut pas mettre en place avec la personne déterminer c'est quoi les objectifs que cette personne-là veut atteindre et quels sont les moyens à mettre en place pour l'aider à atteindre ses objectifs.
Mais vous avez raison, parce que c'est la première fois que je prends conscience que ce sont deux problématiques assez marginalisées, c'est-à-dire la santé mentale et la toxicomanie. Il y a encore beaucoup de tabous là, qui sont liés à ça.
Exactement. Puis ça, quand je parle des patients qu'on rencontre à la clinique, c'est les personnes les plus vulnérables des plus vulnérables. Hein. Déjà, avoir un problème de santé mentale, c'est extrêmement souffrant. C'est évidemment très marginalisant. La toxicomanie, c'est la même chose. Et lorsqu'on est prêt avec les deux problématiques, il est extrêmement difficile d'avoir des services qui sont appropriés. Mmh. Et ça peut vraiment mener à des situations où les gens sont très marginalisés, où on n'a pas accès à des soins.
Ouais. Vous les suivez pendant combien de temps?
Ça dépend. Notre mandat, c'est vraiment, je dirais, à l'unité qui est un programme de troisième ligne spécialisé. Là, c'est vraiment d'aider les gens à se stabiliser suffisamment pour qu'après ça, ils puissent avoir accès aux services habituels. C'est-à-dire, des fois, ça peut être des services psychiatriques habituels, ça peut être les services de traitement de la dépendance, ça peut être leur médecin de famille dans certains cas. Donc, vraiment, notre mandat, c'est de les aider à se stabiliser suffisamment pour qu'ils puissent intégrer le réseau de la santé. Et puis ça, vous savez, des fois, ça peut être 3-6 mois quand les choses vont bien, puis quand le patient est motivé, puis bon, que les choses se passent rapidement. Mais parfois, ça peut prendre plusieurs mois, puis parfois quelques années, là, vraiment, à faire en sorte que cette personne-là atteigne ses objectifs puis soit assez stable là, pour pouvoir passer à la prochaine étape.
Mais on ne le souhaite pas, évidemment, mais j'imagine que quand la personne arrive en ambulance, dans un soin d'urgence, parce que, elle est en psychose, ça va un petit peu plus vite, les soins.
Vous savez, pas nécessairement, parce que l'urgence, évidemment, c'est parfois nécessaire, puis c'est un endroit qui était absolument essentiel dans le système de santé, mais c'est pas nécessairement à l'urgence qui est le plus facile de prendre en charge quelqu'un de façon appropriée, puis de déterminer où est le meilleur endroit pour orienter cette personne-là. Je dirais que c'est un peu plus simple lorsqu'on justement on n'est pas dans une situation d'urgence, donc la personne a des problèmes et qu'on arrive à s'asseoir un peu plus calmement avec elle pour justement pouvoir établir un plan de match. Donc, je dirais que cette porte d'entrée de l'urgence est malheureusement parfois nécessaire, mais je dirais que ce n'est pas nécessairement la meilleure porte d'entrée dans le système.
En terminant, comment on tente d'éviter les récidives?
C'est un travail de longue haleine. Puis vous savez, justement, les récidives, ça fait partie de la santé mentale, ça fait partie de la toxicomanie. Et un des points majeurs dans notre programme, entre autres, c'est justement de travailler sur quels sont les facteurs de récidive avec la personne, comment on peut les éviter, comment on peut les travailler. Puis ça, il y a toutes sortes de stratégies sur le plan de des psychothérapeutiques, des stratégies qu'on peut enseigner aux patients. Puis aussi certaines médications dans le cas de la toxicomanie et de la santé mentale qui peuvent aider à prévenir les récidives de ces problématiques-là.
Oui. Docteur Didier Jutras-Ouad, vous êtes psychiatre à l'unité de psychiatrie des toxicomanies du CHUM, professeur au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. C'est long tout ça, mais vous faites un très bon boulot et merci beaucoup de le faire. Au plaisir.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @canal_m.
Bonjour Catherine Crépeau.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes responsable de section santé alimentation magazine Protégez-vous et auteur de ce livre Les vertus miraculeuses du miel. C'est publié aux éditions de l'Homme. Et l'une des premières choses que l'on apprend dans votre livre, c'est que l'homme, l'humain, récolte, cultive le miel depuis à peu près 12 000 ans. Donc, on n'est pas les premiers là, à en manger, à en acheter, à en avoir dans le garde-manger, quoique c'était sûrement dans la caverne.
Oui, en effet. Quoique, peut-être qu'il ne le conservait pas, peut-être qu'il le mangeait au fur et à mesure. Hein?
Le miel est demeuré un aliment que l'on consomme à travers toutes ces années, c'est parce qu'il a de véritables vertus.
Bien, d'abord, c'est bon, lui.
Oui.
On s'entend. Et aussi, c'est un aliment qui a une très grande capacité de conservation. C'est facile à conserver. Alors, à l'époque où on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui pour conserver les aliments, c'était certainement très apprécié. Et le sucre, on le sait que c'est un conservateur, tout comme le sel là, pour les aliments.
Oui. Pourquoi, quand on a un rhume, un mal de gorge, on nous dit « mange du miel »
Ben, d'abord, le miel, c'est adoucissant. C'est un produit doux pour la gorge. C'est aussi un produit qui a des vertus antiseptiques et antibactériennes. Alors, on a prouvé au fil des études que ça pouvait contribuer à diminuer les symptômes du rhume, de la grippe. On parle des irritations de la gorge, on parle de la toux. Alors, il suffit d'un petit peu de miel dans de l'eau chaude, dans une tisane avant de dormir. Ça va diminuer de beaucoup les symptômes.
Qu'est-ce que l'on retrouve dans le miel? Est-ce qu'il y a des nutriments?
Mais en fait, le miel est composé à 80 % de sucre, de deux sucres qui sont facilement assimilables par l'organisme, le fructose et le glucose. Ensuite, on trouve un 15 à 20 d'eau et un autre 5 % environ là, de nutriments et de vitamines. Alors,
sur nos tablettes, Catherine, il y a de plus en plus de variétés de miel également. C'est facile de s'y perdre. Quelles sont les principales, les principales sortes?
En fait, on peut utiliser les miels en deux catégories. D'abord, les miels de nectar, qui sont faits à partir du nectar des fleurs, et les miels de miella. Ça, ce sont des miels qui sont fabriqués à partir du miella qui est déposé sur les plantes et sur les arbres par des insectes, comme les pucerons, par exemple.
Ah, OK, qui ne viennent pas directement des abeilles, donc.
Ça vient des abeilles. Les deux sont récoltés par les abeilles.
OK.
Sauf que, elles peuvent soit transformer le nectar des fleurs, et ça, c'est les miels qu'on connaît le plus souvent. Bon, les miels de fleurs de bleuet, par exemple, ou les miels de trèfle et tout ça. Et on a aussi les miels de miella, et là, ça va être plus des miels de tilleul, de sapin. Et ça, le miella va être déposé sur les arbres par des pucerons, mais transformé par les abeilles.
OK. Est-ce qu'il y a des variétés qui sont préférables que d'autres?
Bien, en fait, ça dépend. Ici, on trouve plus facilement les miels de nectar, mais les miels de miella, comme le tilleul, vont être utilisés beaucoup pour leur pouvoir antioxydant, entre autres. Ils en contiennent plus que les miels de fleurs.
Faut-il choisir un miel qui est pasteurisé?
Ça dépend toujours. Pasteurisé, ça va favoriser pour la conservation. Alors, ça dépend toujours si vous le gardez longtemps, si c'est pour consommer immédiatement. Ça reste un peu un choix personnel, là, je pense.
Même chose pour bio, pas bio.
Exactement.
D'autres vertus du miel, Catherine Crépeau?
Bien, si on parle de santé, on parle d'un pouvoir tonifiant. Les sportifs vont beaucoup apprécier de prendre du miel parfois pour donner un petit sursaut d'énergie. Ça va un peu remplacer les gels énergisants qui sont vendus en magasin parce que ce sont des sucres rapides. On va parler aussi, tout à l'heure, on parlait des vertus antibiotiques et antiseptiques. Ça va être utilisé pour favoriser la cicatrisation des plaies de lésions suite à des chirurgies, par exemple, ou encore suite à des brûlures. C'est un pouvoir qui est documenté, même qu'en France, il y a des hôpitaux qui utilisent le miel pour traiter certains patients. Il y a en Europe des traitements ou des préparations au miel qui sont vendues pour traiter des plaies. Il y a même des pansements contenant un enduit de miel qui sont vendus. Ce n'est pas le cas ici au Canada, mais ce sont des vertus prouvées au niveau de la cicatrisation.
Ouais, de plus en plus, on en retrouve quand même, je ne connais pas les quantités, mais dans les cosmétiques, dans des crèmes, quoi que ce soit, des lotions.
Oui. En même temps, comme je disais, les propriétés antimicrobiennes, antiseptiques, pouvoir adoucissant, donc les masques, on va ajouter un peu de miel parfois dans les masques de beauté, pour que ce soit plus agréable, que ça sente bon aussi. Là. Oui.
Et c'est collant.
Oui. Excellent pour remplacer la cire pour l'épilation.
Ouais. Ah oui.
Oui.
Ah oui. Puis en même temps, de plus en plus dans la ligne rouge qu'on a tirée sous notre consommation de sucre, à faire attention, à limiter. Le miel, on nous dit que c'est un sucre préférable que d'autres types. Est-ce que ça, c'est véritable comme affirmation?
Bien évidemment, le miel, c'est un sucre, donc à consommer avec modération. Notamment chez les personnes diabétiques, mais comme son indice glycémique est moins élevé que le sucre, que son pouvoir sucrant est plus grand que le sucre, donc pour on peut en mettre moins que du sucre, ça reste un choix qui est intéressant là, au niveau de l'alimentation.
Est-ce qu'on peut en donner aux enfants?
Pas aux enfants de moins d'un an en raison des risques de botulisme. En fait, c'est le seul aliment au Canada qui est associé à ce rythme-là. C'est une bactérie qui peut se développer dans l'intestin. Et comme les bébés ne sont pas en mesure de se défendre parce que leur système, leur flore intestinale n'est pas assez développée, on le déconseille pour les enfants de moins d'un an.
Mais sinon, il n'y a pas de limitation là, pour les personnes âgées, par exemple?
Non, il n'y a pas de contre-indication autre que le fait que c'est un sucre.
Oui. Donc, pour les dents, on fait attention?
Bien, la même chose, oui, évidemment. Les dents, les caries, le poids et tout ça. Donc.
On connaît bien le miel, bien sûr, on en parle depuis quelques minutes déjà, Catherine Crépeau, mais la ruche fournit d'autres produits. On peut penser notamment au pollen. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Bien, en fait, le plus connu est sans doute la gelée royale.
Ah oui.
Il y a eu... c'est très populaire en médecine chinoise et il y a eu comme un regain là, d'intérêt il y a une quinzaine d'années pour la gelée royale. On lui attribuait, entre autres, un effet tonique parce que c'est la nourriture de la reine, qui est l'abeille qui vit le plus longtemps, et des vertus aphrodisiaques. Bon, de ce côté-là, c'est pas prouvé, mais on peut parler que la gelée royale a un certain pouvoir pour traiter, entre autres, les douleurs arthritiques, l'hypertension et le diabète, parce qu'on en trouve dans des produits naturels qui servent à ces traitements. Par contre, il y a encore peu d'études là, pour appuyer la chose.
OK. Donc, gelée royale, c'est bon, un produit que l'on connaît davantage. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Bien, on parlait du pollen qui est récolté par les abeilles, qui pourrait réduire les bouffées de chaleur et l'inflammation de la prostate. Mais encore là, il n'y a que des petites études là, sur le sujet. Ce n'est pas encore très documenté.
On s'est vraiment intéressé, c'est ce que je crois comprendre, aux propriétés du miel là, principalement, puis un petit peu moins aux autres produits qui viennent de la ruche.
Bien, même au niveau du miel, il y a beaucoup d'allégations. On a parlé des allégations qui étaient peut-être documentées au niveau de la cicatrisation, au niveau des symptômes du rhume et de la grippe. Mais il y a un paquet d'autres vertus qu'on prête au miel, mais il y a peu d'études scientifiques sur des produits naturels ou sur les aliments. Et le miel étant de cette catégorie, il y a peu d'études scientifiques pour appuyer les vertus santé.
Et une bonne façon de choisir notre miel, c'est d'y aller avec notre goût personnel, j'imagine?
Ben oui, le goût personnel, ou en moins qu'on cherche des vertus particulières. On parlait tout à l'heure pour la grippe, il y a des miels à l'eucalyptus, et comme on sait que l'eucalyptus est aussi efficace pour les symptômes de la grippe, ben peut-être qu'on est mieux de choisir celui-là pour calmer notre toux. Mais sinon, on peut se laisser aller et goûter les différents types de miel. Il y en a tellement de sortes.
Ou encore lire votre livre « Les vertus miraculeuses du miel » Catherine Crépeau. C'est édité aux Éditions de l'Homme. Merci beaucoup de votre passage à l'émission. Puis là, c'est le temps du dessert. Une petite cuillerée de miel, ça serait bien agréable.
Merci.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, c'était Marianne Paquette au micro. On vous remercie beaucoup d'avoir été là. On vous donne bien sûr rendez-vous demain, même heure, 14h. Si vous nous avez manqué en direct, ben on est en rediffusion à 17h. Portez-vous bien. Bon après-midi. Bye-bye.